VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 11 février 2020, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Fin du sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie.
En Guinée, le président Alpha Condé laisse la porte ouverte à une candidature pour un troisième mandat.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta reconnaît pour la première fois l'existence de contacts avec les djihadistes.
Au Niger, deux policiers ont été tués lundi dans une attaque terroriste contre un poste de police dans la région de Tillaberi, près de la frontière malienne.
En République démocratique du Congo, les magistrats ont entamé hier un mouvement de grève illimité.
Ici aux États-Unis, deuxième vote des primaires démocrates aujourd'hui au New Hampshire.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho.
Pour l'instant, le journal.
L'Union africaine, dont le sommet annuel s'est achevé dans la nuit de lundi à mardi à Addis Abeba, s'est engagée à être plus active et plus efficace dans la médiation des conflits qui déchirent le continent, et en particulier sur le dossier libyen, dossier dont elle a jusqu'à présent été largement exclue. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Après plusieurs sommets consacrés au développement économique et aux réformes de l'Union africaine, les débats se sont concentrés lors de ce sommet annuel dimanche et lundi sur la multiplication des conflits en Afrique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a pris pour un an la tête de l'Union africaine dimanche, a d'ailleurs annoncé lors des discussions la tenue d'un sommet spécial en main en Afrique du Sud, consacré exclusivement à cette thématique. Reconnaissant l'échec de l'engagement pris en 2013 de mettre fin à toutes les guerres en Afrique, du Sahel à la Somalie en passant par l'est de la République démocratique du Congo, les dirigeants africains ont principalement parlé de deux conflits lors de ces deux jours, la Libye et le Soudan du Sud. En Libye, l'ONU, principal médiateur, a besoin de nous maintenant, a assuré lundi Ismaël Shergi, commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité. C'est un problème africain et nous avons une sensibilité que peut-être d'autres n'ont pas, a-t-il ajouté, rappelant le lien entre l'instabilité en Libye et la montée en puissance des groupes djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina ces dernières années. Autre problématique épineuse pour l'Afrique. L'Union africaine a d'ailleurs pris plusieurs initiatives sur la Libye, dont celle d'un forum de réconciliation que l'Algérie s'est proposé d'accueillir.
À noter que, réunis en marge du sommet de l'UA, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont exigé de la Cour suprême de Guinée-Bissau qu'elle agisse d'ici vendredi pour sortir ce pays de l'impasse politique. Cinq semaines après le second tour de la présidentielle, l'issue demeure disputée entre l'opposant Oumarou Sissoko Ambalo, donné vainqueur par la Commission nationale électorale, et Domingos Chimoes Pereira, le candidat du PIGC, le parti qui domine la vie politique du pays depuis des décennies.
Dans l'autre Guinée, le président Alpha Condé a laissé lundi la porte ouverte à une candidature pour un troisième mandat. Il a également défendu la tenue, le 1er mars, d'un référendum constitutionnel dénoncé comme une manœuvre par l'opposition, estimant qu'il n'y avait rien de plus démocratique. « Ça, c'est le parti qui décidera », a déclaré M. Condé, interrogé sur une nouvelle candidature lors d'une interview accordée à France 24 et Radio France Internationale. Son parti, le RPG, peut me présenter comme il peut présenter quelqu'un d'autre. Pour le moment, ce n'est pas mon souci, a-t-il ajouté.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reconnu hier pour la première fois l'existence de contacts avec les groupes djihadistes. Il les a justifiés par la nécessité d'explorer les voies d'une sortie de crise après 8 années de guerre. Le point avec Bagassi Koura.
Diankounda Traoré est en mission pour moi et a le devoir d'écouter tout le monde, a déclaré le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a ajouté que sa mission consiste à déterminer si certains dans l'entourage des chefs peuvent être sensibles à un discours de raison, ajoutant que combattre les groupes djihadistes et dialoguer avec eux n'est pas antinomique. Fin janvier, son représentant pour le centre du Mali, l'ancien président Diankounda Traoré, avait indiqué avoir personnellement envoyé des émissaires en direction d'Amadou Mamadou Koufa et Yag Ag Gali, les deux principaux leaders djihadistes maliens. Cette histoire de dialoguer avec Koufa et Yag n'a pas surgi comme ça à mon réveil, a laissé entendre le président malien qui souligne que cela faisait partie des recommandations issues d'un récent dialogue national. La déclaration rompt avec l'attitude de plusieurs dirigeants maliens qui avaient jusque-là rejeté officiellement tout dialogue avec les djihadistes.
Au Niger voisin, deux policiers ont été tués lundi et un autre grièvement blessé dans une attaque contre un poste de police dans la région occidentale de Tillaberi, proche de la frontière malienne. Les assaillants ont été mis en déroute par les forces de défense et de sécurité, a dit une source sécuritaire. En fin de semaine passée, 5 civils, dont un enseignant, ont été tués dans ce même secteur par des hommes armés à moto, d'après le gouvernorat de Tillaberi. Cette région, située dans la zone des trois frontières, Niger-Mali-Burkina, est depuis 3 ans le théâtre d'attaques récurrentes et de plus en plus meurtrières des groupes djihadistes.
En République démocratique du Congo, les magistrats ont entamé hier un mouvement de grève illimité. Ils réclament un salaire décent et de meilleures conditions de travail, Eddy Sango.
Aucune audience n'a eu lieu depuis hier dans les tribunaux du pays. À Kinshasa, les magistrats ont manifesté devant l'esplanade du palais de la justice. Ils ont crié leur colère. Ils exigent que le gouvernement rencontre les propositions du Conseil supérieur de la magistrature sur des nouveaux salaires et avantages. Le respect du protocole signé avec la présidence en 2011 a mettrait les magistrats à l'abri de la précarité et donc de la corruption, tant décrié, a expliqué à VOA Afrique Edmond Issofa, président du CINAMAC, l'un des syndicats des magistrats. La justice est souvent accusée d'être corrompue, lente et de rendre les jugements à la tête du client. En 2018, l'ancien président Joseph Kabila avait révoqué 250 magistrats pour corruption. Hier, le ministre de la Justice a entamé des discussions avec des représentants des juges. Le président Félix Tshisekedi, qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, a nommé vendredi des hauts magistrats à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation et au Conseil d'État.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a franchi mardi la barre des 1000 morts et pour l'OMS qui a dépêché une mission d'experts en Chine, le nombre croissant de cas de transmission hors de ce pays pourrait augurer d'une plus grande propagation de l'épidémie à travers le monde. Celle-ci a fait désormais 1016 morts en Chine continentale, hors Hong Kong et Macao, selon un bilan officiel publié mardi. Les autorités ont fait état de 108 nouveaux décès en 24 heures, le plus lourd bilan quotidien enregistré à ce jour, tandis que les cas confirmés de contamination s'établissaient à plus de 42 000.
Ici aux États-Unis, les électeurs se prononcent aujourd'hui au New Hampshire pour le deuxième vote des primaires démocrates. Malgré sa petite taille, cet État pèse dans la course à la présidentielle. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les électeurs du New Hampshire votent ce mardi, une semaine après le fiasco dans l'Iowa. Ce petit État, avec 1,3 million d'habitants, est devenu tous les 4 ans un passage obligé pour les candidats. Si les assemblées électorales ou caucus de l'Iowa sonnent le départ, le vote du New Hampshire dégage généralement les tendances et permet déjà d'éliminer les plus faibles. Ces résultats sont traditionnellement suivis de très près par le reste du pays. 11 candidats sont en lice pour l'investiture démocrate. Dans les sondages, Bernie Sanders, sénateur du Vermont, et Pete Buttigieg, ancien maire du South Bend en Indiana, sont donnés favoris. L'ancien vice-président Joe Biden est au coude à coude avec les sénatrices Elizabeth Warren et Amy Klobuchar pour la 3e place. De nombreux électeurs sont encore indécis, souligne Bill Gardner, chargé de l'organisation de la primaire, ajoutant que tout peut arriver ici. Les candidats, conscients de l'enjeu, ont sillonné le terrain et dépensé des millions de dollars pour leur campagne.
Ici à Washington, le président Donald Trump a proposé une réduction de 21% de l'aide à l'étranger dans le projet de budget qu'il vient de suggérer au Congrès. Mais selon des parlementaires américains et des observateurs politiques, ces coupes ne seront probablement pas entérinées, surtout en cette année électorale et certainement pas dans une Chambre des représentants dominée par les adversaires démocrates du président Trump.
Les États-Unis ont annoncé lundi l'inculpation de 4 agents chinois pour le piratage de données personnelles de l'agence de crédit Equifax, qui avait touché près d'un Américain sur deux en 2017 et était resté mystérieux jusqu'ici. Il s'agit de l'un des plus gros piratages de données de l'histoire, avec environ 145 millions de victimes aux États-Unis, a rappelé le ministre de la Justice Bill Barr lors d'une conférence de presse.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le Nigeria demande un report du lancement de l'Éco, monnaie unique ouest-africaine, prévue théoriquement cette année. Les critères de convergence entre États n'ont pas été atteints par la majorité des pays devant adopter cette monnaie commune, a indiqué la présidence nigériane sur son compte Twitter. Le Nigeria et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest dénoncent la décision de remplacer le franc CFA par l'Éco, car selon eux, elle n'est pas conforme au programme adopté récemment par l'ensemble de la région pour mettre en place une monnaie unique. Dans son plan national de développement qui s'étend à 2022, le Togo a choisi des filières porteuses comme l'ananas afin de les rendre plus compétitives. Toutefois, les producteurs d'ananas biologiques qui n'ont pas encore assez d'accès au marché extérieur se plaignent de la faiblesse de la demande sur le plan local. Leurs produits sont peu rentables car ils s'achètent au même prix que les conventionnels. En 2018, le Togo a produit 30 000 tonnes d'ananas, dont 75% biologique. Pour terminer, l'Ouganda a tenu une réunion d'urgence sur les moyens de lutter contre l'arrivée des essaims de criquets pèlerins depuis dimanche. Un seul essaim contiendrait quelque 200 milliards de criquets et dévore chaque jour un total de 400 000 tonnes de nourriture. Il dévaste les approvisionnements alimentaires des populations locales en Ouganda, au Kenya, en Éthiopie et en Somalie, où ils se sont aussi répandus. L'ONU a récemment débloqué en urgence 10 millions de dollars pour remédier aux effets de cette calamité et appelle les États à aider les 13 millions de personnes des pays concernés.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Nigeria valide son ticket pour le tournoi de basket féminin des JO 2020.
Oui, les 10 Tigresses ont enlevé leur ticket à Belgrade en Serbie. Lors du tournoi de qualification olympique, le Nigeria n'a remporté qu'un seul match, un succès 85-51 face au Mozambique, suffisant malgré les défaites 64-70 contre la Serbie et 71-76 face aux États-Unis. 16 ans après, le Nigeria retrouve ainsi le tournoi féminin de basketball des Jeux Olympiques. Les 12 équipes qualifiées seront réparties en 3 groupes de 4, les équipes qui occuperont les 2 premières places de chacun des 3 groupes, ainsi que les 2 meilleurs 3e à l'issue de la phase de groupe, se qualifieront pour la phase finale.
James, Durant et Curry dans la présélection américaine pour les JO.
LeBron James a été inclus dans la présélection américaine, tout comme les blessés Stephen Curry et Kevin Durant. Le coéquipier de LeBron James aux Lakers, Anthony Davis, fait aussi partie de ce groupe de 44 joueurs, parmi lesquels 12 seront choisis pour participer aux JO, la sélection américaine qui tentera d'obtenir un 4e titre olympique consécutif après ceux de 2008, 2012 et 2016, sera dirigée par l'entraîneur de San Antonio, Greg Popovich.
Pelé vit reclus selon son fils.
Oui, handicapé par des problèmes de hanche, le Brésilien souffre d'une forme de dépression selon son fils Edinho. Pelé a célébré ses 79 ans en octobre et a multiplié les séjours à l'hôpital ces dernières années. Vous imaginez, c'est le roi, il a toujours été une figure si importante et aujourd'hui, il n'arrive plus à marcher normalement, il a honte, il ne veut pas sortir, aller dans la rue, il est replié sur lui-même, a-t-il poursuivi. En avril 2019, Pelé s'était rendu à Paris pour participer à une opération promotionnelle avec Kylian Mbappé, mais avait dû être hospitalisé en raison de problèmes rénaux. Fin 2014, il avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse.
Super Coupe CAF 2019, le Sud-Africain Victor Gomez au sifflet.
Oui, le Sud-Africain a été désigné par la CAF pour officier le match Espérance de Tunis-Zamalek SC. Gomez sera assisté de son compatriote Zakele Toussi Siouéla et du Lesothien Sourou Patsouane. Le 4e arbitre est le Sénégalais Maguette Ndiaye. À la VAR, on retrouve le trio Genisi Kadzoué de la Zambie, Mustapha Gorbel de l'Algérie et Gerson Emiliano dos Santos de l'Angola. Le match de la Super Coupe aura lieu ce vendredi 14 février à 16h temps universel au stade Al Garafa à Doha au Qatar. C'est la 2e édition consécutive de cette Coupe CAF qui se tient hors du continent. Nous reparlons de basketball pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
LA Lakers et Phoenix 125 à 100, Milwaukee et Sacramento 123 à 111, Toronto et Minnesota 137 à 126, Utah et Dallas 123 à 119, Denver et San Antonio 127 à 120.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé que son armée était en route vers Kidal, dans le nord du pays. Cet ancien fief des rebelles Touareg échappe depuis longtemps à l'autorité de l'État. Le détachement devrait arriver à Kidal vendredi. Environ 200 hommes à bord de quelques dizaines de véhicules sont en route. Kadiatou Traoré a d'abord joint un habitant de Kidal qui a voulu garder l'anonymat.
Très honnêtement, on a dit ça, il y a belle lurette que l'armée malienne doit arriver, c'est-à-dire les FAMA, à Kidal. Bon, maintenant, la date en tout cas qui a été prévue, c'est le 10. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas vu l'armée et puis on n'a reçu aucune information qui prouve que l'armée malienne donc est présente dans la ville de Kidal pour le moment. On attend.
Est-ce que les anciennes troupes de maintien de la paix sont toujours là? Je veux parler de Barkhane ou de la MINUSMA ou d'autres troupes étrangères. Est-ce qu'ils sont toujours là?
Oui, la Barkhane, elle est là et puis... la MINUSMA et puis la force tchadienne également, elles sont présentes, elles sont toutes présentes dans la ville de Kidal.
Où en est l'armée malienne dans ses préparatifs pour rejoindre Kidal? Kadiatou Traoré a joint le colonel-major Diaran Koné, porte-parole de l'armée.
Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf qu'à répéter, les FAMAN sont en ce moment en train de se préparer pour être déployés à Kidal, conformément à tous les accords, conformément à toutes les conventions, ça et là.
Quand ils seront à Kidal, où ils seront déployés? Il n'y a que deux camps, il y a un camp qui est occupé par les forces étrangères et l'autre camp est occupé par la FEMA. Où est-ce que les troupes maliennes seront déployées à Kidal?
Dans tous les cas, l'idéal est de convenir avec toutes les parties signataires, avec toutes les parties. Vraiment, et ça c'est les fameux vont se déployer, mais maintenant où, quand, comment, alors ça je ne saurais parler de ça, le jour où ceci sera effectif, tout sera communiqué, nous sommes en train de communiquer sur tout ce que nous faisons, il n'y a aucun secret dans ceci. Quand les fameux arriveront à Kidal, ça sera dit, les comment, les pourquoi, les où, et on expliquera tout ça.
Quelle est l'importance de Kidal, cette ville du nord, d'où sont parties toutes les rébellions depuis l'indépendance du Mali? Kadiatou Traoré a aussi joint notre confrère Moussa Boli à Bamako.
Kidal est très important pour le Mali parce que Kidal ne saurait être une menace pour l'intégrité territoriale parce que conserver l'autonomie ou de l'indépendance à Kidal, c'est vraiment ouvrir la porte à toutes les aventures qui, à la longue, vont totalement détruire le tissu de l'unité nationale au Mali. Finalement, la République va risquer de voler en éclat. Kidal, c'est un véritable risque pour la stabilité du Mali. Et ce n'est un secret pour personne, le fait que nous soyons encore dans la crise, c'est parce que l'opération Sénégal n'est pas arrivée à Kidal. Les Français ont empêché l'armée malienne de prendre Kidal, de s'installer à Kidal, de faire reconnaître l'administration et tout. Et nous savons que beaucoup de ces groupes signataires de l'accord pour l'appel à la réconciliation nationale ne sont pas sincères dans leur engagement pour la République. Ils sont les mêmes chargés que les terroristes. Donc Kidal, c'est un peu le ventre mou de la lutte contre le terrorisme. Les armes rentrent, les maîtres rentrent. Donc, l'armée malienne à Kidal, c'est déjà un gage que ce ne serait plus un refuge stratégique pour les terroristes. Donc, Kidal est très important pour la République du Mali.
Notre confrère Moussa Boli joint à Bamako.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Togo, la campagne électorale pour la présidentielle du 22 février bat son plein. Offensive de charme en direction des électeurs qui, de leur côté, expriment leurs attentes. Elles vont de l'économie au social en passant par les droits de l'homme, nous dit notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Les candidats à la présidentielle du 22 février prochain sont sur le terrain. Ils sillonnent tout le pays à la rencontre des électeurs. Des électeurs qui privilégient ces moments pour faire part de leurs attentes. Pour Basile Ataï, la quarantaine avancée, conducteur de taxi-moto, le futur président doit s'assurer que la devise du Togo, qui est travail, liberté, patrie, devienne une réalité.
Ce que nous attendons, le futur président, c'est travail, liberté et patrie. Nous voulons travailler. C'est à cause de ça qu'on cherche un bon travail, un bon paiement. Et on veut la liberté et la sécurité. Si on dit qu'avec cette élection, rien ne peut plus changer, c'est faux. Parce que ça sent bien que ça change.
Lors des rencontres avec les populations, le président sortant brandit un bilan ponctué par des performances économiques et sociales. Abdou Kérim, distributeur de journaux à Lomé, estime que le plus important est que la croissance puisse profiter à la population.
Ce que j'attends du futur président, c'est que l'économie puisse bouger. Nous voulons des grands investissements qui permettent de toucher la grande population. Parce qu'on parle de croissance, mais cette croissance n'est que l'ivresse. Ça ne touche pas le grand peuple. Mais nous voulons que cette croissance touche aussi le peuple pour que le peuple puisse se débrouiller dans les différentes sphères de leurs activités.
Le meilleur programme de société pour le quinquennat 2020-2025 doit avoir pour priorité trois domaines que sont l'économie, l'éducation et la santé. Tel est le point de vue du commerçant Justin Kossi.
L'économie du Togo, aujourd'hui, ça ne va pas parce que les jeunes sont en chômage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la valorisation du prime des enseignants. Et le troisième point, la santé. Parce que nos hôpitaux ne sont pas dotés du scanner.
De toutes les attentes, celle qui revient le plus est l'instauration de l'état de droit.
Un président qui prend en compte la démocratie, le respect des droits de l'homme, de tous les droits, je veux dire, droits politiques, sociaux, économiques, la liberté d'expression.
Nous voulons vivre dans un état de droit, où le droit de chaque citoyen est respecté à la hauteur de ses mérites.
Que ce futur président commence par respecter les droits de l'homme, que les libertés soient octroyées aux citoyens. Nous voulons qu'il n'y ait plus d'impunité, pour qu'il y ait la paix sociale.
Les Togolais sont appelés aux urnes le 22 de ce mois pour élire leur futur président. Ce scrutin est une élection uninominale à deux tours, une première depuis 2002. C'est également la première fois que les Togolais de l'extérieur vont voter lors d'un scrutin national. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Tchad, une manifestation des étudiants des différentes facultés de N'Djamena a été réprimée hier par la police. Ils avaient lancé un ultimatum de 3 jours la semaine dernière, demandant aux autorités d'améliorer leurs conditions d'études. Notre correspondant André Kotmajingar fait le point.
Presque 10 étudiants évanouis, parmi lesquels une étudiante en master 1 en droit privé, elle était enceinte presque à terme. Il y a un également qui est blessé au front.
Témoignage d'un étudiant ce lundi à la faculté d'Arte Djumbal dans la commune du 3e arrondissement de N'Djamena, sous le crépitement de gaz lacrymogène des éléments du groupement mobile d'intervention de la police. Une manifestation pour exiger le rétablissement des bourses d'études et de restauration, l'installation des wifi dans les campus et l'augmentation du nombre de bus pour leur transport, entre autres. Le président de l'Union nationale des étudiants tchadiens, Amos Aserbe Dikreo, déplore la violence exercée sur les étudiants par les agents de la police.
Nous déplorons 76 cas de blessures ou 6 graves et 9 étudiants arrêtés. Ils doivent immédiatement réparer les vitres de nos amphithéâtres qui sont cassées. Ils doivent prendre en charge les étudiants qui sont blessés, ils doivent aussitôt libérer les étudiants qui sont arrêtés s'ils ne veulent pas que la situation se généralise.
Le mouvement a débordé le siège du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur Sinex logé dans l'une de ses facultés a été investi par la police eux-mêmes brutalisée.
C'est la énième fois que les forces de l'ordre rentrent dans nos locaux et brutalisent les enseignants. Nous avons le principe de l'inviolabilité des locaux. Le Tchad est un pays de droit, il faudrait que les gens commencent à respecter le droit.
Dirayo Jérémy, président du syndicat
national des enseignants et chercheurs du supérieur. Il demande à toutes les sections du SILEX sur l'ensemble du territoire national d'observer une journée de protestation ce mercredi 12 février 2020.
Toutes les activités de recherche et les enseignements doivent être suspendus. Le temps est arrivé pour que nos forces de l'ordre là commencent déjà à respecter ce corps qui forme les cadres de la République. Et il faudrait que cela cesse.
Nos tentatives d'avoir la réaction des autorités électorales sont restées vaines. Toutefois, la solution semble être trouvée avec les étudiants. Noubarabaï Madengar est le vice-coordonnateur meneur de la grève.
Nous sommes entendus sur un point. Maintenant, la grève, elle n'est pas levée, mais c'est suspendu momentanément. Nous accordons 2 semaines à nos autorités électorales. Au cas contraire, on va encore entrer en grève.
Les responsables de la police affirment à VOA Afrique que dans de telles manifestations, la police ne peut pas faire la différence entre étudiants et enseignants chercheurs, et donc ces enseignants sont brutalisés par confusion. Pour le réseau des associations qui œuvrent pour la protection des enfants, la manière de réprimer les manifestations des étudiants traumatise non seulement les enfants des établissements primaires et secondaires, mais enfreint au respect de leur intégrité physique et psychologique. André Kodumbadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Plus de 42 200 personnes ont été contaminées en Chine continentale et 1016 d'entre elles sont mortes du nouveau coronavirus. La quasi-totalité des décès sont intervenus dans la province du Hubei, berceau de la contagion, dont Wuhan est la capitale. Le président Xi Jinping a reconnu que l'épidémie au Hubei et à Wuhan reste très grave, alors que des mesures radicales ont été prises. 56 millions de personnes sont interdites de déplacement en dehors de leur région. C'est le cas de l'étudiant Cher Mbake Amar, qui prépare son doctorat à l'université CCNU à Wuhan. Il fait partie des étudiants sénégalais qui voulaient être rapatriés et dont les parents avaient réclamé le retour suite aux déclarations du président Macky Sall, qui avait affirmé que le Sénégal n'avait pas les moyens de rapatrier ses étudiants. Cela fait 18 jours que l'étudiant Cher Mbake Amar, joint par Claire Morin-Gibourg, est en quarantaine dans sa chambre d'étudiant.
Effectivement, nous sommes en quarantaine à Wuhan et c'est depuis le 23 janvier à partir de 10h00. Moi, je l'ai su la nuit à travers des informations parce que moi-même, le 23, j'avais acheté un billet pour voyager, mais malheureusement, le matin, quand je suis arrivé à la gare, ils m'ont dit que c'est déjà effectif la quarantaine, vous ne pouvez pas sortir. Ici, bon, on s'organise dans mon université. Il y a un code que tu peux scanner et il y a un supermarché qui fait une livraison 2 fois dans la semaine.
Vous êtes également sportif, hein? Vous êtes ceinture noire et instructeur de Kung Fu. Du coup, vous avez dû arrêter tous vos entraînements?
Bon, j'ai arrêté les entraînements à l'extérieur, mais j'ai aménagé dans ma chambre un petit coin pour faire mes entraînements.
Le président Macky Sall a déclaré que le Sénégal n'avait pas les moyens de rapatrier les étudiants il y a quelques jours, ce qui a déclenché la colère de parents sénégalais. Quelle a été la réaction de vos parents à vous?
D'abord, sur le discours du président, moi, d'après ce que j'ai écouté, moi, je me dis que le président n'a pas eu la bonne information, parce que disant qu'il n'y a aucun pays africain qui ne l'a pas encore fait, alors qu'on a vu le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie qui l'ont fait. Puisque on voit chaque jour d'autres pays qui rentrent, même hier, c'est le Vietnam qui vient de rentrer, donc on pense que le rapatriement, c'est possible jusqu'à un nouvel ordre. Et sur nos parents, normalement, comme tout parent qui a son enfant dans une ville où tu entends chaque jour qu'il y a une maladie, normalement, nos parents peuvent que nous rentrions.
Mais vos parents, à vous, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils sont déjà dans un collectif et ils essaient de rencontrer l'autorité, ils essaient de rencontrer le président pour lui demander de vraiment organiser notre rapatriement au pays.
Est-ce que vous avez envie d'être rapatrié? Est-ce que les autres étudiants sénégalais également expriment le désir d'être rapatrié?
Oui, pour juste vous dire que dès le début, c'est nous qui avons émis le besoin d'être rapatrié au pays. À ce moment-là, même nos parents n'étaient pas impliqués dans le combat. C'est avec les informations et la presse là, qui a relayé toutes les informations que nos parents maintenant se sont mis dans la bataille et nous ont appuyé sur notre mot d'ordre de rapatriement.
Et si vous êtes porteur du virus, vous êtes confiant que vous pourrez être soigné correctement au Sénégal?
Pour le moment, nous sommes tous bien portants. Nous ne sommes pas malades, nous ne sommes pas porteurs de maladies. Et s'il arrive le malheur aussi, nous sommes vraiment confiants du système sanitaire de notre pays qui a eu à combattre vraiment l'Ebola, qui était une crise beaucoup plus profonde.
juin à Wuhan, l'étudiant sénégalais Chermbaké Amar de l'Université normale de la Chine centrale. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.